Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Le procès de Harvey Weinstein démarre à New York et est déjà très très médiatisé. Des dizaines de femmes l'ont accusé dans les médias d'agression sexuelle. Et sur internet, les hashtags MeToo, balance ton porc, on le sait maintenant, ont libéré la parole. Mais côté justice, du moins en France, les pressions importantes de l'opinion publique pose un problème au fonctionnement de la justice. C'est du moins ce que vous dites dans votre livre. Bonjour Olivia Dufour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancienne juriste et vous publiez « Justice et médias, la tentation du populisme ». C'est publié aux éditions LGDJ. La vindicte populaire sur Internet est-elle une entrave à la justice ? Aux enquêtes, à la présomption d'innocence, au secret de l'instruction. Ce sont les questions que vous posez dans votre livre. Et pour les femmes, les procès 2.0 servent-ils vraiment leur cause? C'est la question qu'on va se poser dans l'émission. Avec vous également, et si possible avec des cas concrets, bonjour Kessia Mutombo.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de l'association féministe contre le cyberharcèlement, qui est une association qui a vu le jour en 2015, c'est ça?
Effectivement, oui.
À la lumière de quel contexte?
C'était suite à la diffusion très large sur un réseau social qui permet le microblogging, donc Twitter, de vidéos et de photos de jeunes filles mineures dénudées très explicites avec des appels à la violence, notamment en indiquant leurs adresses, leurs informations d'identification. Suite à cela, nous avons fait une campagne numérique qui se nommait Twitter Against Women, mais qui était vraiment adressée à tous les réseaux sociaux sur la question de la sûreté des utilisatrices et notamment du droit à l'oubli et du droit aussi à l'image et à la vie privée.
Reste à savoir ensuite ce qu'il en reste sur le plan de la justice. Et puis en fin d'émission, nos portraits comme chaque semaine de l'Afrique qui gagne. Rencontre aujourd'hui avec la Nigériane Obi Ezekwesili, ancienne ministre. Elle est la femme qui a lancé la mobilisation mondiale pour les lycéennes de Chibok avec le célèbre hashtag Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles. C'était il y a 5 ans déjà, peut-être une autre époque où les réseaux sociaux ne lynchaient pas encore à discuter, en tout cas. Voilà, on démarre notre émission avec bien sûr vos appels ou vos réactions si vous le souhaitez au 33 1 84 22 71 71. La vindicte populaire sur Internet est-elle une entrave à la justice? Et pour les femmes, les procès 2.0 servent-ils vraiment leur cause?
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Alors évidemment, sur l'affaire Weinstein, on a une auditrice de Brazzaville qui nous dit que l'affaire n'est que le début du commencement de la parole libérée à l'endroit des femmes. Le hashtag MeToo est devenu un symbole pour dire stop et ça suffit aux agressions faites aux femmes. Olivia Dufour, vous écrivez sur la justice française, vous, hein, puisque c'est votre métier. Vous suivez forcément le démarrage du procès de Harvey Weinstein. Est-ce que, à votre avis, de l'autre côté de l'Atlantique, la justice est soumise à la même pression populaire? C'est exactement la même chose.
Je ne veux pas trop m'avancer sur les États-Unis parce que c'est la France que je connais. Je pense que c'est un phénomène sans doute mondial et je pense qu'en général, ce qui se passe aux États-Unis a souvent une dimension paroxystique et finit toujours par arriver en France. Donc je pense qu'effectivement, on doit avoir la même pression.
En tout cas, là, au démarrage, on a un homme accusé d'agression sexuelle par plus de 80 plaignantes. Le procès ne concerne en réalité que 2 plaignantes. Il faudra voir ensuite comment ça évolue. Et la problématique qu'on retrouve aussi beaucoup dans votre livre, comment construire un dossier pénal sans preuves matérielles?
C'est-à-dire que c'est, alors encore une fois, l'affaire Weinstein, je ne la connais pas assez pour me permettre d'en parler, mais d'une manière générale, les procès qui sont menés sur les médias et en particulier sur les réseaux sociaux sont des procès qui sont forcément biaisés à la base, puisqu'on n'a jamais toutes les pièces, on n'en a que certaines, on a des déclarations, on a rarement le contradictoire. Moi, je passe beaucoup de temps sur Twitter et ce qui me choque le plus, c'est que lorsqu'une personne est mise en cause et qu'elle ose se défendre ou que des personnes prennent sa défense, pas tant pour la personne en elle-même que pour, par respect d'un certain nombre de principes, c'est-à-dire retenir la main de celui qui va jeter la pierre, j'observe que c'est considéré sur les réseaux sociaux souvent comme un outrage, comme quelque chose de parfaitement insupportable. Et c'est sans doute une des choses les plus inquiétantes, c'est que ce contradictoire qui permet, que la justice cultive comme un bien, un de ses biens les plus précieux, parce que c'est ce qui permet à la personne mise en cause de se défendre, c'est ce qui permet d'évoquer tous les arguments dans une salle d'audience, et à la fin, au terme de cet exercice de dialectique, d'arriver à la moins mauvaise solution possible, ça, c'est impossible sur Internet. Et ça, ça pose, à mon avis, une difficulté majeure.
C'est ce qui vous a décidé à écrire ce livre, « Justice et médias ».
Oui, c'est deux choses. La première, c'est le bruit médiatique global qu'on peut observer sur certaines affaires par rapport à la réalité du dossier. Je pense par exemple à l'affaire Kerviel. On se souvient de ce trader accusé d'avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros à sa banque en 2008. Il restera à tout jamais dans l'esprit des citoyens français, je crois, comme étant une sorte de bouc émissaire à qui Société Générale a fait porter le poids de ses propres pertes sur les marchés financiers. Tous les chroniqueurs judiciaires qui ont assisté aux deux procès en première instance et en appel savent que c'est faux. Voilà un exemple, par exemple, de bruit médiatique radicalement déconnecté de la réalité du dossier. Ça, c'est un des problèmes posés par la justice médiatique ou la médiatisation de la justice. Et puis, il y a le tribunal médiatique où là, indépendamment de tout procès, on a effectivement des foules qui se constituent extrêmement rapidement via les réseaux sociaux et qui vont désigner une cible et instruire une parodie de procès. Alors, on s'échange des pièces,
on s'échange des informations. C'est ce que vous appelez le « je ne sais rien, mais je prends position ».
Oui, oui, parce que on s'échange des pièces, on subodore, d'un seul coup des experts s'autoproclament en disant je suis spécialiste de ceci ou de cela. Il faut bien que les auditeurs soient conscients du fait qu'on croit savoir mais on ne sait jamais. Un dossier judiciaire, c'est quelque chose qui prend des années à être constitué. Il y a des expertises techniques, il y a des témoignages, il y a des témoignages qu'on recoupe, il y a des gens qu'on confronte. Il y a un travail extrêmement élaboré qui ne garantit même pas au bout qu'on aura autre chose qu'une vérité judiciaire et pas une vérité absolue. Mais c'est ce que la civilisation
a... C'est pas ce qui doit empêcher l'opinion d'avoir accès à l'information et de se forger sa propre conscience du sujet.
Ah mais moi, ça ne me dérange pas, bien au contraire, que les citoyens s'investissent dans les questions d'actualité et effectivement se forgent une opinion. Là où, par contre, je m'inquiète, c'est par exemple quand on va non plus se forger une opinion, mais appeler au lynchage. Quand, dans l'affaire Maznev, on pense ce qu'on veut...
Il n'y a pas réellement de lynchage sur Internet.
Alors, justement,
je voudrais finir quand même sur l'affaire Maznev.
Comme les on va y venir.
Lorsque Gabriel Maznev, si il a commis des infractions sexuelles, il relève des tribunaux.
Alors, on va oui. Peut-être quand même, pour nos auditeurs, recontextualiser. Gabriel Maznev, 83 ans, inconnu du grand public jusqu'à il y a encore quelques jours, prix Renaudot en 2013. À la suite de l'apparition du livre Accusateur de Vanessa Springora, qui a eu une liaison suivie à l'âge de 14 ans. Il en avait 50. Donc c'est une affaire qui dépasse largement aujourd'hui et en quelques jours le petit monde feutré de l'édition pour déferler sur les réseaux sociaux. Et effectivement, tout le monde a une opinion sur le sujet.
Voilà.
Mais alors, j'espère bien tout de même.
Oui,
quand même,
je voudrais... Si vous me permettez, finir, parce que vous me dites qu'il n'y a pas de lynchage. Donc, cet écrivain qui a...
Parce que le lynchage renvoie quand même à une action bien précise.
Oui, mais j'ai encore vérifié dans Wikipédia.
C'est tout de même embarrassant, comme les hommes qui parlent de chasse aux sorcières,
qu'on conteste de terminer ma démonstration.
Bien sûr, je vais vous donner la parole, Kessia Moutoumou.
On m'a fait cette observation, j'ai vérifié sur Wikipédia, et on est bien d'accord sur le fait qu'un lynchage, ça peut devenir aussi... vous savez, on peut utiliser des images.
Oui,
et
bien sûr.
Par exemple, quand vous demandez, comme c'est le cas avec Gabriel Maznev, on est en train de faire pression pour qu'on lui retire les petits subsides qu'on lui verse, qui est l'équivalent d'une retraite pour écrivain, parce que c'est un système où on n'est pas salarié, c'est 6 000 euros par an. Voilà, on est en train, et le ministre a dit que c'était sans doute ce qu'il allait faire, On est en train de s'interroger sur le fait que peut-être on devrait lui retirer son appartement. C'est un monsieur qui a 84 ans et qui est atteint d'une longue maladie. Quand on a commis une infraction sexuelle en France, on relève des tribunaux et éventuellement de la prison. Mais qu'on vous prive de subsides sous la pression de l'opinion publique qui se met à hurler et donc on ne trouve plus de sanctions suffisamment infamantes ou violentes pour répondre à cette opinion publique, on est hors de l'état de droit. C'est autre chose.
Mais est-ce que Gabriel Matzneff est aujourd'hui injusticiable comme un autre ? Le parquet de Paris a ouvert la semaine dernière une enquête pour viol commis sur mineur. Évidemment, ça relance le débat sur l'âge du consentement sexuel. Mais est-ce que c'est une plainte qui peut aboutir à un procès ? C'est toute la question. Est-ce que finalement la vindicte populaire ne sent pas que Gabriel Matzneff ne pourra pas être atteint par la justice et donc s'empare du sujet ?
Sous réserve de la prescription, et ça dépendra de ce dossier-là, mais d'autres dossiers qui pourraient surgir, il est possible
que... Sous-entendu d'autres plaintes. Pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a pas plainte de Vanessa Springora. Mais... Il y a un livre, ce n'est pas la même chose.
Oui, en plus, mais maintenant qu'il y a une enquête préliminaire d'ouverte, de toute façon, la justice va faire son... ou essayer de faire son travail dans les limites de l'état de droit. Et notamment, il y a une prescription.
C'est-à-dire de rechercher des plaignantes.
La question, c'est on ne peut pas laisser passer la prescription, ce qui est exactement le même sujet qu'on a dans l'affaire Barbarin, puis se réveiller 30 ans ou 40 ans plus tard, et faute de pouvoir... agir en justice alors qu'on pouvait le faire, d'un seul coup décider qu'on va priver un vieux monsieur de ses subsides, c'est-à-dire en réalité avec une très grande hypocrisie. Il n'y a plus de peine de mort, mais on va s'arranger pour qu'il n'ait plus de quoi vivre.
En marge d'une décision judiciaire, hein, c'est ce que vous dites. Kessia Mutombo, alors oui. En tant que vice-présidente de l'association féministe contre le cyberharcèlement, et donc d'une association féministe des droits des femmes.
Qui utilise énormément les réseaux sociaux pour sensibiliser sur des questions de cyberviolence, mais aussi de culture du viol, de harcèlement et consorts.
Est-ce que vous a étonné déjà ou pas l'affaire Gabriel Matzneff ?
Elle ne m'a pas étonnée, puisque, à mon avis, Internet permet de décloisonner certains milieux sociaux où règne un très grand entre-soi, où des personnes se cooptent. Et on voit depuis, notamment lors de sa remise en 2013 du prix Renaudot, et au fil des années, toutes les plateformes que cet auteur a eues pour expliquer, pour romancer, limite, faire une apologie de son attirance pour les très jeunes personnes.
Et pas que dans des œuvres littéraires, hein, puisque dans son journal, il dit qu'il est clairement attiré par des enfants de moins de 16 ans.
Et puis c'est des argumentaires qu'il a pu tenir sur des plateaux télé, dans des chroniques de presse écrite. Donc c'est quand même une personne qui a eu le temps et qui a eu aussi l'opportunité de s'étaler sur ses comportements qui sont clairement déviants et qui sont clairement attentatoires à la sûreté de personnes très vulnérables, quand on parle d'enfants quand même. Et donc non, je ne suis pas étonnée de l'ampleur que ça a pris, puisque Internet a permis à des personnes qui n'avaient pas forcément accès à ces discussions, puisque même le monde de l'édition, le monde littéraire, ce sont des milieux avec beaucoup de codes, où aussi il faut un certain bagage intellectuel pour en saisir les enjeux et les aboutissants. Ça ne m'a pas du tout étonnée. Et c'est un des effets positifs aussi des réseaux sociaux, qui sont des espaces où la parole est plutôt horizontale. Et parfois, ça peut un peu déranger les personnes qui ont l'habitude d'évoluer dans un certain entre-soi.
Certes, mais le fait que tout cela soit commenté sur les réseaux sociaux, soit, mais que cela amène à des décisions, comme le dénonçait Olivia Dufour, qui pénalisent l'avis d'une personne qui n'est pas jugée en justice. Est-ce que c'est bien ce que vous disiez, Olivia Dufour ?
J'aimerais bien continuer quand même sur cette question, puisque j'ai plusieurs exemples concrets en matière de... beaucoup de personnes dénoncent justement cette justice des réseaux sociaux, où on n'a plus le temps de faire des enquêtes, voilà, comme vous disiez, le principe du contradictoire, de s'écouter. Mais moi, ce qui me dérange, c'est quand des personnes doivent recourir aux réseaux sociaux pour avoir un accès normal à la justice et pour être des justiciables comme les autres, au final. Enfin, il y a tellement de problèmes d'accès au droit. Je pense concrètement aux comptes qui fleurissent un peu sur Twitter, notamment de femmes en situation de violence post-séparation et qui violent leur propre secret médical en exposant leurs photos d'agression, parfois en expliquant des récits d'agression
parce que c'est plus rapide, moins coûteux que d'accéder à la justice.
Je ne dirais pas que c'est nécessairement moins coûteux, puisque en théorie il y a quand même plusieurs il y a quand même des aménagements. On peut avoir.
Oui, se payer un bon avocat, c'est cher.
Voilà, c'est cher, un bon avocat, nécessairement. Mais il y a quand même, normalement, en théorie, des dispositifs d'accès à la justice. Et normalement, par exemple, déposer plainte est totalement gratuit. Mais voilà, quand il faut. Poster des photos de soi-même, de son enfant blessé. Je repense notamment à une vidéo, il me semble, l'année dernière, qui avait fait énormément, qui avait ému beaucoup de personnes sur Internet. C'était une enfant qui, dans un hôpital ultramarin, criait, pleurait. C'était des cris ignobles parce qu'elle devait repartir avec son père. Mm-hmm. Et ça a permis notamment de relancer l'enquête sur est-ce qu'il y avait eu violence incestuelle ou pas. Et ça me dérange en fait quand des personnes en viennent à exposer leur vie privée pour que on puisse identifier le plus majoritairement.
Sous-entendu parce que la justice ou la police ne fait pas son travail, n'est pas suffisamment au service de tous. C'est ce que vous voulez dire.
C'est
une substitution.
Ce que je constate maintenant avec mes années presque 5 ans bientôt d'accompagnement de victimes de violences en tout genre au final, puisque les cyberviolences sont tellement aller sur beaucoup de phénomènes, c'est que oui, il y a un problème de formation, déjà de compréhension des violences sexuelles. Comme vous le disiez, Madame Dufour, auparavant, c'est embêtant d'attendre la fin de la prescription pour commencer à dénoncer certains phénomènes, mais parfois, le temps d'intégrer, de réaliser qu'on a vécu des violences sexuelles, cela peut prendre plusieurs décennies, et puis ensuite de trouver la force de les dénoncer.
Alors elle a été rallongée, cette durée de prescription, la loi d'août 2018 contre les violences sexuelles a allongé réforme, de 20 à 30 ans le délai de prescription pour les crimes sexuels.
Il y a des personnes qui, par exemple,
à compter de leur majorité,
souhaitent que en matière de violences sexuelles, la prescription n'existe plus. Après, je sais qu'il y a énormément de juristes pour lesquels ça poserait question, mais voilà, à titre, selon mon expérience, il y a vraiment un défaut dans la prise en charge et dans l'intégration et dans le suivi judiciaire de ces questions-là. Et que certaines personnes se sentent obligées de se tourner vers les réseaux sociaux parce qu'elles retrouvent un soutien communautaire.
Alors vous précisez bien, vous parlez bien de réseaux sociaux, Kessia Mutombo. Mmh. Olivia Dufour, vous parlez souvent des médias et on ne sait pas forcément bien ce que vous mettez dans le mot média. Vous évoquez une emprise des médias sur la justice. Est-ce qu'il ne faut pas très largement distinguer les réseaux sociaux et les journalistes, chroniqueurs judiciaires, que vous avez cités d'ailleurs tout à l'heure?
Ils fonctionnent maintenant en un écosystème global, mais vous avez raison, il faut les différencier parce qu'ils n'ont pas le même rôle et ne fonctionnent pas non plus complètement de la même façon. Je voudrais juste préciser une chose. Quand je fais une critique de la justice médiatique, ça n'est pas pour remettre en cause les bienfaits d'Internet et de cette communication horizontale et de cette capacité à donner la parole largement à des gens. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de souligner les risques parce que on se met en risque, comme dans toute activité humaine. Une médaille a toujours deux faces. Donc, ça n'est pas une manière de dire Internet est une horreur et les réseaux sociaux aussi. C'est simplement de dire attention, il faut rester attaché à nos principes d'état de droit parce qu'ils ne sont pas inutiles, ils ne viennent pas de nulle part et ils ne sont pas sans légitimité. Je reviens, à votre question. Oui, alors les médias effectivement et les réseaux sociaux, mais c'est parce que dans le livre j'aborde, comme je le disais au départ, à la fois la manière dont les médias peuvent rendre compte de manière déformée de la réalité d'un dossier judiciaire et le rôle que peuvent prendre effectivement les réseaux sociaux qui vont avoir un effet amplificateur, c'est un petit peu l'allumette jetée dans une flaque d'essence. Et évidemment, ce sont surtout les réseaux sociaux qui vont se mettre dans des phénomènes de lynchage quand la justice n'est pas encore saisie. Mais on observe aussi de plus en plus une tentation de saisir les médias professionnels en lieu et place de la justice. C'est l'affaire Adèle Haenel, par exemple, qui a dénoncé les agressions sexuelles qu'aurait commises sur elle un réalisateur de cinéma. Là, elle le dit d'ailleurs chez Mediapart, elle a préféré choisir les médias que la justice. L'affaire n'était pas prescrite, il n'y avait aucune difficulté objective pour qu'elle aille voir la justice, et il n'y avait même pas le problème du coût d'un avocat que vous évoquiez, puisque je pense qu'en tant qu'actrice de talent et assez renommée, elle a possiblement les moyens de se payer cet avocat cher. Mais je rappelle aussi qu'il y a l'aide juridictionnelle et que les avocats à l'aide juridictionnelle sont de très bons avocats. Là, elle dit, voilà,
quand ils en ont le temps. Quand ils en ont le temps.
Oui. Là, la justice, dans les affaires d'assises, c'est des passionnés. Ils se défoncent. Ils ne sont pas du tout payés, mais je vous assure qu'ils travaillent vraiment bien. S'agissant d'Adèle Haenel, elle dit, mais la justice ne fonctionne pas, donc je préfère les médias. Ça me pose un problème parce que j'aurais aimé qu'elle essaye la justice. Les médias sont légitimes à partir du moment où y a les autres institutions dysfonctionnent et qu'on n'a plus que ce dernier recours pour les obliger à fonctionner. Je crois comprendre que c'est ainsi qu'a fonctionné l'affaire Weinstein notamment, et c'est ça son intérêt aux États-Unis, c'est qu'il y avait effectivement une chape de plomb, que rien ne bougeait et que si les médias ne s'étaient pas mêlés de l'affaire, il ne se serait rien passé. L'affaire Haenel est différente. Là, on dit, je préfère finalement les médias. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut observer de près parce que c'est peut-être une tentation de la facilité.
Oui. Kessia Mutombo, quand une femme dit « je préfère les médias », ça veut dire qu'elle se sentira mieux réparée par une forme de condamnation populaire et donc aussi un peu une mort sociale de l'agresseur, puisque ça a été le cas. On a eu des agresseurs qui se sont fait licencier par leur employeur, par exemple.
Oui, voilà, on a eu des
sans qu'il y ait forcément un jugement, d'ailleurs, en justice.
Qui ont été licenciés, mais qui n'ont pas forcément perdu de toute leur influence ou de leur réseau. Parfois, juste leur poste ou leur fonction qui est la plus exposée, on les retire un peu de cet endroit. Mais par rapport à Adèle Haenel, il ne me semble pas avoir compris qu'elle estimait préférer les médias, mais plutôt que c'était un espace où elle se sentait plus à l'aise pour dénoncer actuellement. Parce que ça reste quand même une actrice dans un monde professionnel qui est toujours très masculin et les réalisateurs ont énormément de pouvoir.
C'est-à-dire que les médias font passer au premier plan le témoignage, la justice travaille autrement aussi.
Notamment sur la durée.
C'est-à-dire que je comprends la logique sans la comprendre, parce qu'en tant que juriste, pour moi, c'est juste sidérant, pardon. Mais jeter en pâture, autant je suis d'accord sur MeToo, s'il s'agit de montrer l'ampleur d'un phénomène d'agression sexuelle et d'omerta autour de ce phénomène. En revanche, quand on jette le nom d'un individu en pâture, et que donc on l'expose à un procès médiatique d'une foultitude de gens qui ne connaissent rien au dossier, qui sont évidemment en situation d'empathie avec la personne qui raconte son traumatisme et qui vont crier à mort, vous dites généralement ils perdent un travail, mais pas tous ni leur réseau. Mais c'est déjà beaucoup trop quand on n'a pas été jugé dans les formes et condamné par une institution dédiée à cela. On est en démocratie.
Par exemple,
je comprends la souffrance,
Adèle Haenel,
mais je trouve qu'on
cas,
se trompe là.
Elle engage sa responsabilité pénale. Donc également, la personne qui est dénoncée par les propos qui se sent diffamée ou cible de propos faux, peut dans ce cas quand même engager un procès pour ces questions-là.
Pour dénonciation calomnieuse, en effet, mais c'est ce qu'on appelle la probatio diabolica en droit, parce que la preuve qu'on n'a rien fait est une preuve impossible à rapporter. Vous pouvez prouver l'existence de quelque chose, vous ne pouvez pas prouver l'inexistence de quelque chose. Donc le réalisateur va devoir prouver qu'il n'a pas commis d'atteinte sexuelle sur cette femme. Ça me paraît compliqué. En attendant, il a été viré de la Société des réalisateurs et pour en avoir discuté un peu avec des journalistes spécialisés en matière de cinéma, on m'a dit c'est terminé, sa carrière de cinéma est terminée, il ne trouvera plus de producteurs, il ne sera plus financé. Voilà, fin de l'histoire. Or, ce monsieur n'a pas été jugé dans les formes.
Mais actuellement, il y a quand même une défaillance de la justice particulièrement.
Mais on ne peut pas corriger une injustice par une autre injustice. C'est ça, c'est cette logique-là.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Kessia Moutambo ? Vous voulez dire la difficulté pour les personnes qui s'estiment victimes de monter un dossier pénal sans preuve matérielle quand on parle d'agressions sexuelles qui se sont passées il y a plusieurs mois, plusieurs années ?
Voilà,
c'est vrai que
c'est compliqué. Il y a. Moi, je dois vous dire, en tant que personne qui a fait de l'assistance aux victimes dans mon association, voilà, on s'est concerté pour dire qu'on ne pouvait plus nécessairement conseiller le dépôt de plainte aux personnes qui venaient s'adresser à nous.
C'est ce que vous dites aux femmes qui viennent vous voir ?
On leur demande ce qu'elles souhaitent faire. Si elles souhaitent déposer plainte, on rassemble des ressources que nous avons rassemblées dans un guide et on leur transmet. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que l'on conseille nécessairement. Parce qu'il faut savoir que le dépôt de plainte est toujours une épreuve au final et parfois un moment de revictimisation.
Donc vous êtes en train de dire, Kessia Moutambo, finalement, que vous conseillez aux femmes victimes, vous leur dites que la justice en France n'a plus lieu d'être pour elles.
Enfin, ça n'a pas lieu d'être, mais qu'il y aura un coût émotionnel et possiblement une revictimisation, et que c'est quelque chose qu'elles doivent prendre en compte et savoir si elles sont en capacité de l'encaisser. C'est vraiment ce que nous disons aux victimes. Donc si vous avez cette force mentale-là et émotionnelle d'être face à des personnes qui sûrement vous culpabiliseront pour votre sexualité, peut-être pour la relation que vous avez avec votre agresseur ou autre chose, voilà, n'hésitez pas. Mais si vous n'avez pas cette force
sous-entendu,
émotionnelle,
une victime se répare mieux grâce à une condamnation médias interposés ?
Pas nécessairement. Je ne parle pas nécessairement de l'implication des médias, que ce soit les réseaux sociaux ou autre. Mais par exemple, on a un point d'honneur.
La mort sociale d'une personne accusée, finalement, ça répare mieux.
À faire des soins médicaux.
Mais par exemple, la mort sociale d'une personne accusée qui perd son travail, qui perd l'estime de ses proches, etc., ça répare mieux une victime qu'une condamnation judiciaire ? Dans le fond, c'est... Non, je ne juge pas vos...
Oui, voilà, non,
mais
je
m'interroge sur...
quand il y a une condamnation judiciaire, cette personne-là est également écartée. La mort sociale dont on parle, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a plusieurs personnes qui ont dénoncé des agressions, des viols, et qui ont vu... Leur agresseur présumé être présent là où c'est. Mais ce que je dis, c'est que voilà, actuellement, il y a quand même une défaillance. La justice faillit à beaucoup de personnes, à beaucoup de justiciables, et que on ne peut pas finalement minimiser le rôle de la communauté dans la réparation. Et
Vous restez avec nous, Olivia Dufour. Vous publiez « Justice et médias, la tentation du populisme ». On en débat avec vous, Kessia Moutambo, de l'association. Vous êtes cofondatrice de l'association féministe contre le cyberharcèlement. Vous avez des positions très différentes sur les femmes victimes. Et on se pose la question avec vous, d'ailleurs, est-ce que ces procès 2.0 servent vraiment leur cause ? On a des éléments de réponse avec vos différents points de vue. Et vous pouvez bien sûr réagir si vous le souhaitez, les voisines et les voisins, 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, Olivia Dufour, on parlera, on va revenir sur l'affaire Tron en France, qui illustre pas mal de problèmes, de questions, voire de dysfonctionnements.
Dans ce décor, il est temps qu'on casse des portes. Si tant d'entre elles balancent des bords, c'est qu'à longtemps que le vase déborde. Pour tous ceux qui ont préf bitch pour une critique de la femme et de son corps, qu'on soit d'accord. J'emmerde tous ceux qui disent que le diable se cache dans ses formes. Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté. Elle m'a tenté, tout qu'après tout, elle a ses torts. Non, ses pores me dégoûtent. Alors écoute, faudrait peut-être qu'on les découpe pour que tu t'en battes moins les couilles. Certaines abusent, mais je vois plus des gamines perdues que des salopes. Plus un viol, ça reste un viol, ça dépend pas de la taille de sa robe. Et toi qui cries, c'est toutes les mêmes, t'as rien compris. Oh la salope, dans cette histoire, c'est surtout toi et ta connerie. Les traités de pute, c'est plus facile que d'admettre qu'elles veulent pas prendre un verre avec toi. Car tu sais pas, t'y prendras avec, tu gonfles les becs et les abdominaux. Tu vois les femmes comme des femelles, car être un homme c'est être un mâle dominant. Puis on dira que c'est de sa faute si les hommes sont dans l'abus. Oui, regarde un peu ses habits, normal qu'on l'agresse dans la rue.
étouffée par son étreinte. Rares sont celles qui portent plainte. En finale au tribunal, on dira qu'elle le voulait peut-être un peu. J'emmerde la justice, impossible qu'on s'entende. Elle qui considère qu'à 11 ans, on peut être consentante.
Un homme de 30 ans a quitté après avoir eu des rapports sexuels avec une enfant de 11 ans. L'avocat a plaidé le consentement.
Il faut que son corps tombe à terre pour qu'on voit la gravité. C'est la victime qu'on interne, les coupables sont acquittés. Acquittés, nous parle pas d'égalité. Ici, on sait pas qui c'est, ça fait un bail qu'elle nous a quittés. Donc être un homme, parfois j'ai honte. Moi qu'est-ce tu veux que je dise de plus? Pas besoin d'avoir sa mère sur le trottoir pour être un beau fils de pute. Tu me crois pas? Viens voir les chiffres. La vérité secoue, y'a plus de femmes qui tombent sous les coups que de maris qui tombent sous écrou. Son homme l'a mis au pied du mur, cette nuit c'est pas ce dont elle rêvait. Car le viol se pack dans la rue, même en couple ça peut t'arriver. J'endors debout, même l'amour est arrivé. Frérot dis-moi ce qui est arrivé. On a été éduqués par des films de boules dans lesquels les femmes sont des chiennes et les hommes sont déchaînés, hein. Et se défoulent sur des meufs qui se font déchirer. Sales idées, peut-être qu'au départ t'hésitais, mais lui a décidé pour toi, rapport non désiré. Si l'homme est capable du meilleur, il peut aussi devenir le pire des animaux dès lors qu'il laisse ses pulsions définir.
Il faut qu'on se rappelle que dès la naissance, les garçons et les
filles. C'est MeToo, Vince, chez 7 milliards de voisins, sur RFI. On est en direct et on débat avec vous, Olivia Dufour, journaliste, ancienne juriste. Vous publiez Justice et Médias, la tentation du populisme. On évoque des affaires où des personnes se retrouvent d'emblée jugées avec soit une perte de leur travail, une mort sociale, avant même de passer devant la justice et parfois même sans jamais passer devant la justice. Et Kessia Moutambo, vous êtes cofondatrice de l'association Féministe contre le cyberharcèlement. Vous nous disiez juste avant la chanson que parfois vous en arrivez même à conseiller à des femmes victimes d'agressions sexuelles ou de cyberharcèlement, ce qui revient d'ailleurs à une forme d'agression sexuelle, hein, de finalement de renoncer à une action judiciaire. Vous parlez du coup psychique de la justice, du traumatisme, pour parfois d'ailleurs beaucoup de difficultés pour les victimes d'être reconnues sur le plan juridique
comme étant
victimes et de faire condamner leurs agresseurs pour tout un tas de raisons, hein, qui tiennent à la justice elle-même, de retrouver des preuves, des témoignages, des plaintes qui concordent, etc.
Parfois, la difficulté intervient au dépôt de plainte directement, qui
tout
est
à
refusée.
Fait. Et là, ça concerne la police aussi. Hein.
Oui, exactement.
Olivia Dufour, vous souhaitiez rebondir là-dessus.
Oui, parce que il est évident, et tout le monde le dit en France, qu'il faut améliorer la prise en compte de la victime en matière d'agression sexuelle. Ça, on est d'accord là-dessus. Le point, c'est que la justice, de toute façon, est toujours traumatisante. Quel que soit le contentieux dans lequel vous êtes, à moins que ce soit un contentieux d'affaires ou de... C'est toujours traumatisant. Un prud'homme, c'est traumatisant. Quand votre employeur, vous allez être obligé de l'entendre dire qu'en réalité, vous avez commis une faute grave ou lourde, alors que vous, vous considérez que vous êtes une victime de harcèlement moral, c'est de toute façon traumatisant. Donc, il faut remettre dans le contexte. Aller en justice, c'est quelque chose de lourd, de compliqué psychologiquement, qui va durer plusieurs années. On peut pas échapper à ça. C'est inéluctable. On peut essayer d'améliorer notamment la prise en charge de la parole des femmes victimes d'agressions sexuelles, parce que ce qui rajoute là, c'est que c'est l'intimité qui a été violée et que donc on va vous obliger à dire des choses qui sont insoutenables, non seulement à se remémorer, mais en plus à décrire à des étrangers et à une série d'étrangers. Malheureusement, on ne peut pas vraiment faire autrement que cela, parce que on s'obstine en France à faire attention à ne pas condamner des innocents. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que on ne peut pas prendre appui sur ces difficultés-là et sur l'injustice qu'elles peuvent représenter pour les réparer par une autre injustice. C'est-à-dire que pour moi, l'argument de « je vais dans les médias parce que la justice, ça va trop me traumatiser et donc je vais dénoncer mon agresseur qui sera condamné sans procès », je ne peux pas l'entendre. Et on ne peut pas vivre comme ça. Parce qu'on a tous un frère, un cousin, un père, un fils dont on ne supporterait pas qu'il soit accusé de cette manière. Or, il y a un risque non négligeable de manipulation, de phénomène de meute. Je ne dis pas que les femmes mentent. Je dis qu'il y a un risque que, par exemple, en justice, on ne tolère pas. On réduit ce risque au minimum humainement possible parce qu'on ne tolère pas ce genre de choses. Et je pense qu'on ne peut pas abandonner nos principes d'état de droit qui sont le produit de centaines d'années de travail et de réflexion et d'expérience parce qu'à un moment donné, ça ne marche pas et que donc on trouve une solution plus rapide. C'est une solution perverse.
Il nous reste très peu de temps. Je voudrais, Olivia Dufour, parce que vous consacrez un chapitre dans votre livre à l'affaire Tron. Georges Tron, c'est cet homme politique, maire de Draveil, et son adjointe Brigitte Gruel. Ils ont été jugés en cour d'assises. Ils sont accusés de viol et d'agression sexuelle par deux femmes employées de la ville. Tron, il a été raconté dans la presse, surnommé le fétichiste des pieds. C'est un procès aux assises qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est ce que disent des professionnels de la justice. Pourquoi ?
En tout cas, c'est un procès dans lequel on a vu à plusieurs reprises lors de l'instruction que le dossier était vide. Parce que, notamment, on avait un problème de preuve. Alors, c'est le problème de la démonstration des infractions sexuelles qui est particulièrement compliqué. Mais on avait dans ce dossier un problème lourd de preuve. On ne pouvait pas démontrer. On avait la parole des victimes contre la parole des accusés. Et on n'arrivait pas à aller...
C'est presque toujours le cas, finalement. Enfin, très souvent, à moins d'avoir une victime qui va immédiatement porter plainte et faire constater par des médecins qu'elle vient d'être violée, par exemple. Mais sinon, c'est vrai que c'est ce qui caractérise souvent l'agression sexuelle.
Oui, enfin, on peut quand même... Il y a des affaires de viol qui aboutissent à des condamnations. Là, on était à l'intérieur d'une mairie avec des gens qui travaillaient ensemble, qui avaient des relations quotidiennes, dont les relations étaient un petit peu complexes parce qu'elles avaient, été intimes puis ne l'étaient plus. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne veux pas offenser les personnes qui étaient dans cette affaire.
Quel a été le résultat en justice ?
De mémoire, il a été acquitté. Je ne sais plus si l'appel est passé ou pas, mais je crois que la première décision a été, sauf erreur, un acquittement. Et tant qu'on est sur cette affaire, je voudrais souligner encore une fois là le rôle pernicieux des réseaux sociaux. Parce qu'il a fallu reporter le dossier en raison notamment des attaques depuis l'intérieur de la salle d'audience sur les réseaux sociaux par des groupes féministes du président qui, parce qu'il posait aux plaignantes des questions sur les circonstances exactes, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Encore une fois, il faut imaginer son frère, son fils, son cousin dans cette histoire.
D'ailleurs, justement, on a un message que je voudrais lire, là, qui vient de m'être affiché sur l'écran. Rachid, un auditeur, Rachid est avocat. Et voici ce qu'il poste comme message. Les gens qui condamnent sont des gens qui n'ont jamais eu affaire à la justice. Sous-entendu, les gens qui condamnent sur les réseaux sociaux. Lorsque l'on protège les droits d'une personne peu recommandable, cela revient à protéger nos propres droits.
Non, les droits de la défense sont complètement indispensables dans une démocratie. Mais
puisque la présomption d'innocence, comme le dit Olivia Dufour d'ailleurs dans son livre, elle est encore audible, compréhensible aujourd'hui, puisque d'ailleurs vous le dites, Olivia Dufour, les gens comprennent de moins en moins bien le fonctionnement de la justice, qui certes est complexe.
Non, c'est quelque chose, la présomption d'innocence, c'est l'un des principes juridiques, en tout cas, qui est l'un des mieux connus, mieux appréhendés par... La majorité de la population, même les personnes qui n'ont pas de notion en droit.
Ou même le sens d'une mise en examen aussi, qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà, elle n'existe plus, je trouve que c'est un abus. Il y a encore beaucoup de personnes qui attendent le prononcé d'une décision judiciaire pour fixer leur opinion sur leur opinion ou même ce qui est éventuellement
sur une personne. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, en tant qu'association, pour faire cohabiter la liberté d'expression et les fonctionnements normaux de la justice ?
C'est cette absence de fonctionnement normal de la justice, notamment en matière de violences sexuelles, cette mauvaise prise en compte, prise en charge des victimes. Et le fait que cela prenne beaucoup de temps, par exemple pour les infractions de cyberviolence à caractère sexuel, quand il y a des vidéos qui sont diffusées, la personne est quand même dans un danger immédiat. Donc il faut des réponses rapides.
Bien sûr, y revenir. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir participé à l'émission. Kassia Moutembo, donc de l'association féministe contre le cyberharcèlement. Et merci à vous, Olivia Dufour, pour poser ces questions. Justice et médias, la tentation du populisme, c'est publié chez LGDJ. Dans quelques instants, les portraits de l'Afrique qui gagne.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique qui gagne rencontre aujourd'hui avec la Nigériane Obi Ezekwesili. Il y a 5 ans, 276 lycéennes de Chibok, au nord du Nigeria, étaient enlevées par Boko Haram. Aujourd'hui, 112 sont toujours disparues. La mobilisation mondiale est née sur les réseaux sociaux pour la bonne cause. Par le hashtag Bring Back Our Girls, rendez-nous nos filles, lancé donc par Obi Ezekwesili, ancienne ministre du Nigeria. Elle est une figure du continent africain et elle revient sur cette journée du 15 avril 2014 où elle a appris l'enlèvement des lycéennes de Chibok. Elle raconte au micro d'Alice Milo.
What we knew.
Au début, la seule chose qu'on a su, c'est qu'il s'était passé quelque chose au centre du pays. Plus précisément dans la banlieue d'Abuja, la capitale, dans un quartier appelé Nyanya. On a appris qu'il y avait eu une bombe et que beaucoup de gens étaient morts. Et donc, on ne parlait que de ça. À ce moment-là, on n'avait pas du tout réalisé que le même jour, à quelques centaines de kilomètres d'Abuja, Boko Haram avait fait une autre chose terrible, qu'ils étaient entrés dans une école et qu'ils avaient enlevé des lycéennes. C'est seulement le lendemain, le 15 avril, que j'ai vu un tweet de la BBC qui disait qu'une centaine de lycéennes avaient été enlevées au nord du Nigeria. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, non, pas ça, s'il vous plaît, pas ça. J'étais effrayée, je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Donc j'ai commencé à tweeter pour demander à mon réseau, est-ce qu'il y a des gens là-bas qui ont des infos sur ce qui s'est passé hier dans la province de Borno à propos de l'enlèvement des lycéennes? Et certains m'ont confirmé l'info. Et donc c'est là que j'ai commencé à tweeter au gouvernement et aux militaires. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est arrivé à ces filles? Mais rien. Pas de réponse pendant des jours. Et finalement, les militaires ont fini par nous dire, on n'a pas été très réactifs, mais aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a retrouvé certaines filles et que quelques-unes restent encore disparues. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé, merci mon Dieu. Et puis j'ai dit, s'il vous plaît, pouvez-vous faire le maximum pour récupérer les jeunes filles qui manquent à l'appel? Mais là, coup de théâtre, les parents des jeunes filles disparues sont arrivés en force et se sont écriés « Non, nous n'avons pas récupéré nos filles ». Alors là seulement, j'ai compris que les ennuis commençaient. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer le premier hashtag. Où sont nos 85 filles? Parce qu'à cette date, c'est le nombre de filles qui manquaient d'après les militaires. Et pendant des jours, pas une réponse. Les militaires auraient dû venir s'excuser, dire que c'était une erreur de communication, qu'aucune des filles n'avait été retrouvée et qu'ils étaient encore en train de les chercher. Mais pour moi, le plus important, ce n'était pas qu'ils s'excusent, mais surtout qu'ils poursuivent l'opération de sauvetage parce qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Donc nous, on pensait, ok, c'est un mensonge, vous ne les avez pas trouvées, mais s'il vous plaît, cherchez-les et ramenez-les nous. J'avais tellement peur de ce qui pouvait leur arriver. J'imaginais les pires choses que les terroristes pouvaient leur faire. Ça me faisait trop mal. Imaginez, j'ai été ministre de l'éducation. Je sais à quel point c'est difficile de faire venir les filles à l'école, notamment dans les trois régions où se situe Boko Haram. Je sais que ça représente énormément de travail de réussir à scolariser les jeunes filles là-bas. Alors comment rester silencieux quand ces filles ont payé de leur vie le fait d'être allées à l'école? Quelques jours plus tard, j'accueillais un événement de l'UNESCO autour du livre. Et donc j'ai profité de mon discours d'inauguration qui était retransmis à la télévision pour dire « Levez-vous avec moi en solidarité avec les lycéennes de Chibok ». Elles ont été capturées depuis de nombreux jours maintenant et nous n'avons aucune information sur ce sujet. Le gouvernement ne nous dit rien sur ce qu'il fait pour les sauver. Et donc c'est à vous tous de leur dire « Rendez-nous nos filles ». Un jeune homme était en train de suivre mon discours à la télévision et il a tweeté. Obi Ezekwesili a dit « Bring back our girls, rendez-nous nos filles ». Et par la suite, je l'ai retweeté. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur Twitter. Je leur ai dit « Partagez cela au reste du monde, tweetez au maximum, bring back our girls », que le hashtag inonde le monde. Et puis après ça, nous avons organisé des rassemblements et des rencontres pour dire au gouvernement nigérian « Faites tout votre possible pour ramener nos lycéennes ». À ce moment-là, je me disais que si on arrivait à capter l'attention du monde, le gouvernement serait obligé de faire le nécessaire. Et elle nous reviendrait dans un ou deux mois, tout au plus. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça durerait 5 ans. 5 ans, depuis avril dernier. Aujourd'hui, 107 lycéennes ont été récupérées et 112 sont toujours disparues. Donc aujourd'hui, notre action est de montrer que le monde a le devoir de protéger les faibles et les vulnérables qui se trouvent parmi nous. Et qu'il est responsable de ne pas laisser les terroristes diriger le monde. Comment les enfants peuvent aller à l'école s'ils ne sont pas en sécurité, surtout quand il s'agit de filles? En février de la même année, des garçons avaient été tués à l'école et j'avais dit au gouvernement qu'il fallait au plus vite retrouver les coupables et les condamner fermement pour que ça serve d'exemple et que ça ne recommence jamais. Mais ils n'ont rien fait. Et quand tu ne fais rien, tu envoies le mauvais signal aux criminels. C'est comme si tu leur disais que tu ne te préoccupes pas de tes enfants et eux, ils recommenceront leurs méfaits. C'est pour ça que ça m'a rendue si triste quand ça a recommencé avec les filles de Chibok. Et cette fois-ci, je me suis dit, je ne vais pas en rester là. Nous n'oublierons jamais les filles de Chibok. On continuera à attirer l'attention sur elles.
Qu'est-ce que ces jeunes filles ont raconté quand elles sont rentrées ?
Elles sont rentrées à différents moments. Les premières filles ont été trouvées en brousse suite à un raid des militaires. L'une d'entre elles avait un enfant parce que certaines ont été violées et mises enceintes par ces types de Boko Haram qui les ont désignées comme leurs épouses. Quand les militaires sont arrivés, elles leur ont dit « Nous sommes des filles de Chibok » et ils les ont ramenées à leurs parents. Certaines mères se sont effondrées parce qu'elles ne pouvaient pas croire que leur fille était en vie et rentre à la maison. Et donc c'est comme ça que Amina Aline Keki, celle qui a eu un bébé, est rentrée presque 2 ans après son enlèvement. Seulement 1 mois après qu'on ait commencé à se mobiliser, des gens nous ont dit « Arrêtez de vous mobiliser, ça ne sert à rien. Ils les ont vendus, ils en ont fait leur femme, alors arrêtez. » Nous, on les a ignorés. Nous pensons qu'elles sont vivantes. Donc si vous croyez le contraire, montrez-nous des preuves de leur mort. Si Amina Aline Keki est vivante et qu'elle nous dit que certaines de ses camarades le sont aussi, ça veut dire que le monde a le devoir d'aller chercher les autres. Et donc ça, ça a été un argument pour exiger le sauvetage des autres. Et c'est comme ça qu'une autre fille a été trouvée, et encore une autre. En tout, 4 filles ont été trouvées dans la forêt. Et on a dit au gouvernement, si vous vous y prenez comme ça, vous allez les retrouver au compte-gouttes et ça prendra des dizaines d'années pour toutes les libérer. Pourquoi ne pas plutôt exploiter les options qu'ils ont ? Engager une négociation avec Boko Haram, lancer une opération militaire, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Avec le temps, le gouvernement a fini par céder et il a engagé des négociations. 24 jeunes filles ont été libérées par ce biais, puis 81 ensuite. Et donc aujourd'hui, on en a retrouvé 107 en tout, sur 219. Donc il manque toujours 112 filles.
Quel était précisément le deal des négociations entre le gouvernement et Boko Haram ?
Le gouvernement ne nous a jamais révélé la nature de l'échange, mais beaucoup de pays doivent faire face à des enlèvements. Et ils font le nécessaire pour sortir leurs citoyens de cette situation. Moi, je pense qu'une vie humaine est ce qu'il y a de plus important. On doit sauver des vies.
Vous dites ça parce que ça peut déclencher un débat, de négocier avec les terroristes ?
Vous savez, souvent, les gens qui s'engagent dans ce genre de débat sont des gens qui n'ont rien à perdre. Une mère dont la fille a été enlevée ne va pas, elle, se poser ce genre de questions. Ce qui est important pour nous est de dire au gouvernement, faites le maximum pour ramener nos filles. Et en même temps, faites la guerre contre le terrorisme. Vous pouvez faire les deux en même temps.
La mobilisation était très forte il y a quelques années. Est-ce que vous avez peur que le monde les oublie ?
Bien sûr. Depuis, le monde a changé. Parfois, des gens voient mon badge, Bring Back Our Girls. Ils me disent, oh, ces filles ! Mais je pensais qu'elles avaient toutes été retrouvées. Et moi, je dois leur dire, et nous, 112 n'ont jamais été retrouvés. Et les gens répondent, oh mon Dieu, mais je n'avais pas du tout réalisé cela. Et vous savez pourquoi ? Parce que le monde bouge tellement vite. Je veux rester optimiste. Et la vérité, c'est que sur les 107 qui sont revenus, 106 sont retournés à l'école. Et ça, c'est la plus belle des revanches. Et je me rappelle que l'une d'entre elles a dit, je me battrai pour faire les études les plus longues qui soient.
C'était Obi Ezekwe Sili, ancienne ministre nigériane à l'origine de la mobilisation Bring Back Our Girls. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, émission spéciale consacrée à Haïti en pleine crise, 10 ans après le séisme. Les commémorations seront probablement reléguées loin derrière les problèmes urgents, insécurité, violence, inflation, problèmes d'accès aux soins, à l'école. Les voisins, les voisines en Haïti, vous avez la
parole pour parler de votre vie quotidienne. Surtout, contactez-nous dès maintenant sur notre numéro WhatsApp 33 1 84 22 71 71.
En 2019,